Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'association Sec at Scale avec Quentin Berdugo. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Et Nicolas Perrault. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Nicolas Ruff.
Bonjour.
Alors Quentin, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Quentin Berdugo. Je fais de la sécurité depuis une grosse vingtaine d'années. J'ai fait beaucoup de sécurité offensive au début. Après, je suis passé du côté de la défense avec des positions de CISO dans des boîtes de la tech. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire partie du début de l'aventure Sec at Scale.
Alors, dans la tech, on parle anglais, donc bien sûr, CISO et RSSI.
Voilà.
Nicolas ?
Et moi, Nicolas Perrault, je travaille également dans la sécurité des systèmes d'information depuis un peu plus de 20 ans. Presque autant que Quentin, mais je suis plus jeune, donc 3 mois de moins. Et voilà, j'ai fait 10 ans dans le conseil à peu près, puis après RSSI, CISO, responsable sécurité, plusieurs noms pour un petit peu le même rôle. Au sein de différentes structures.
Alors, Sec at Scale, c'est quoi ?
Alors, Sec at Scale, c'est une asso loi 1901, donc à but non lucratif, qui regroupe les CISO ou les RSSI, mais dans le milieu de la French Tech, on aime bien dire CISO, qui regroupe donc les CISO et leurs équipes pour discuter, partager et créer un espace de confiance pour pouvoir échanger.
Mais il n'y avait pas déjà des espaces de confiance, au CIGREF, CLUSIF, au CESIN ?
Alors oui, il y en a plein, mais on a senti le besoin et l'envie d'en créer un différent qui réponde plus précisément aux spécificités du monde de la French Tech pour rassembler les gens qui appartiennent à ce réseau-là. On a un certain nombre de spécificités et on ne trouvait pas forcément l'ensemble des réponses aux questions qu'on avait ou alors les réponses qu'on pouvait y trouver. Elle n'était pas forcément applicable dans notre contexte à nous. C'est pour ça qu'on a créé cet asso. Ça s'est fait au début de façon assez spontanée. Il y avait deux groupes de travail ou deux communautés très informelles qui existaient et il a été décidé de les fusionner et de faire quelque chose d'un peu plus structuré avec la création de l'asso.
Alors pour les auditeurs, la French Tech, c'est pas juste les boîtes d'informatique ou de cybersécurité, c'est aussi l'innovation dans les biotechnologies, les implants médicaux, enfin tous les domaines des nouvelles technologies au sens large.
Quelles sont vos spécificités ? Alors c'est que vous êtes cloud native ou natif du cloud, comme dirait Hervé ?
Au début, j'aimais bien présenter, alors c'était vraiment tout au début, j'aimais bien présenter Sec at Scale comme étant un club de CISO qui savent démarrer une stack Kubernetes. On est un peu revenu de ça, on a un peu évolué, notamment sur des approches un peu plus risques et moins purement techniques. Mais effectivement, je pense que la notion de cloud native, c'est assez omniprésent chez nous, même si on l'a vu dans le sondage Pulse, dont on va sans doute parler un petit peu après, qu'en fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont full on-prem ou très hybrides dans leur approche. On est quand même sur des populations, des cultures qui sont très proches du cloud, que ce soit en interne ou pour leurs usages d'entreprise.
Quand on est dans une entreprise type start-up ou en forte croissance, il y a un côté très opérationnel et certainement plus opérationnel que la plupart des RSSI qu'on trouve dans d'autres associations. Enfin, il y a tous les types de RSSI, mais disons que en termes de proportion, je sens plus d'opérationnel chez vous.
Oui, souvent, c'est des gens qui ont démarré vraiment seuls et qui ont dû poser la base de la fonction sécurité dans l'entreprise. Et c'est des gens qui ont des profils plus techniques, alors que dans d'autres sociétés, ça peut être des gens qui viennent des métiers, de l'informatique, mais qui n'ont pas forcément au départ cette spécialisation sécurité. Pardon. Et du coup, ça donne effectivement des profils différents avec des conversations différentes. C'est pour ça que ça fait partie des choses qu'on a identifiées, mais il y en a pas mal d'autres. Par exemple, l'importance des investisseurs et de la relation avec les investisseurs, elle est complètement différente dans une boîte de la tech et qui dépend beaucoup plus des investisseurs et de leur opinion et de leurs impulsions que dans une boîte classique.
De leur desiderata.
C'est pas que leur desiderata, c'est aussi qu'on est en 2025 et que, si je puis dire, même côté investisseur, VC, en bon anglais, il y a une prise en compte des risques, que ça soit pour des sujets de régulation, GDPR en fait partie, CCPA aux États-Unis, mais aussi d'autres sujets similaires. Il y a une prise en compte du fait que un des risques, pas forcément prépondérant, mais en tout cas un des risques à prendre en compte dans la structuration et dans la croissance d'une entreprise de la tech, c'est aussi la prise en compte des enjeux de sécurité, parce que pas caricaturer et dire qu'une entreprise peut disparaître du jour au lendemain à cause d'un incident de sécurité, mais en tout cas, la valorisation d'une entreprise telle que celle dans laquelle on travaille peut significativement diminuer s'il y a un gros incident de sécurité, même si en général, on voit que les capitalisations se remettent sur la durée, il peut quand même y avoir un petit pic vers le bas, une petite chute de pression en cas de survenue d'un événement important.
Mon pitch pour présenter SecAtScale en une ligne, c'est SecAtScale, c'est le fils caché du Cézin et de TechRocks. Voilà, c'est un peu le mélange des deux, cette orientation vraiment très French Tech et l'orientation sécurité.
Alors, quelles sont vos activités ?
SecAtScale, c'est quand même une asso qui est relativement récente, donc qui a été fondée en 2022, mais qui est très dynamique et il y a pas mal de choses qui sont lancées. Il y a déjà Slack qui est vraiment l'espace où on partage au quotidien, où tous la plupart des échanges se font. On apprend à se connaître, on identifie les sujets qui intéressent et qui prennent de la traction. Il y a beaucoup d'échanges qui se passent à l'intérieur, notamment on a un système de virtual coffee qui permet de mettre en relation des membres au hasard, donc ils vont être invités à prendre un café ensemble ou de faire une visio ou aller se voir, se rendre visite dans leur boîte respective pour faire connaissance. Donc ça brasse un petit peu l'écosystème. Et on fait aussi un meet-up trimestriel où on essaye de se rencontrer. Donc là, au mois de septembre prochain, ce sera, si je ne me trompe pas, Nicolas, le 13e. C'est un rendez-vous qu'on a où il y a des présentations qui sont faites, des présentations techniques ou stratégiques, qui sont la plupart du temps présentées par des membres, mais on peut avoir parfois des présentations de sociétés externes ou de d'entités externes. Nicolas, tu veux parler d'autres initiatives ?
Ben, il y en a pas mal. Alors, effectivement, on s'est un peu créé autour de Slack et les meet-ups dans un premier temps. On a assez rapidement commencé à organiser un training, une session de formation en bon français annuelle pour les développeurs des sociétés qui sont représentées au sein de SecAtScale. C'est des sociétés qui sont représentées parce qu'il n'y a pas des sociétés sont pas membres, hein, c'est des gens qui sont membres de SecAtScale. Et donc on a un certain nombre de plus en plus de sociétés représentées et donc on organise de manière annuelle maintenant un événement sous la forme d'un CTF qui a pour but d'entraîner les développeurs de nos entreprises, donc à la différence d'un CTF traditionnel qui s'adresse habituellement plutôt à des experts de la sécurité ou en tout cas des gens qui sont largement versés dans le domaine de la sécurité et potentiellement même de la sécurité offensive. Là, on s'adresse aux développeurs, donc c'est encadré en général par les équipes sécurité des sociétés en question. C'est organisé par la direction de l'association de SecAtScale. Et on organise ça pour les trois premières itérations qu'on a faites jusque-là avec un partenaire. Donc je peux les citer rapidement. Il y avait SysDream, il y avait Google et RouteMiPro pour le dernier, qui étaient des très bons partenaires.
Non, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ceux qui font ça, parce que moi j'en connais plein, sont quand même des grandes entreprises. Là, vous mutualisez en le faisant pour toutes les startups de la tech.
En fait, c'est marrant, c'est un petit peu comme ça que c'est né. C'est-à-dire que Nicolas et moi, on a travaillé ensemble dans une boîte précédente, et on travaille toujours ensemble. On se connaît depuis très longtemps et on a fait un peu les 400 coups ensemble. Et j'avais voulu réitérer ce CTF, et le prestataire m'a fait un prix moins intéressant, et il me dit « Mais ouais, mais t'as moins de développeurs, donc il en faudrait plus, et là, je te fais un bon prix. » Et c'était au début de SecAtScale, j'ai dit « Ah bah, s'il faut plus de participants, bougez pas, je reviens. » Et il m'avait dit, nous, on devait être une vingtaine de développeurs. Ils m'ont dit, si tu reviens avec 100 développeurs, ben, on peut baisser le prix. Donc, j'ai envoyé un message à sa casquette. J'ai dit, voilà, le truc est tout ficelé. Il n'y a plus qu'à signer en bas de la page. Est-ce que ça vous intéresse? Si on est 100, on a tel prix. Et effectivement, on a eu les 100 développeurs et ça a bien marché. Tout le monde a bien aimé. On a fait une grosse fête à la fin de la journée. On s'est tous réunis chez l'un des participants. On a bu des coups et du coup, on a eu des très très bons retours de la part des développeurs qui ont trouvé ça intéressant, engageant, etc. Et du coup, on a eu des demandes pour réitérer ça. Et donc là, on a fait 3 itérations de cet exercice avec une participation croissante. Je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, Nicolas.
250 personnes tout rond, à un ou deux près qui avaient été portés pâle. 250 et 19 sociétés qui avaient participé au dernier CTF par rapport à, de mémoire, 7-8 sociétés pour le premier. Il faut savoir que c'est un investissement, hein, y compris pour les sociétés. Quel que soit le coût externe qu'on met sur la participation au CTF, qui est en général pas très cher pour les participants, il y a quand même l'arrêt pendant une journée du pipeline de développement pour les sociétés membres. Donc, ça représente nécessairement une organisation, un investissement, faut vendre en interne, etc. Donc,
mais ça, c'est le coût de toute formation. Hein. C'est le temps de la personne qui est payée par son employeur et qui travaille pas pour son employeur. Mais elle est tellement meilleure à la sortie que c'est rentable.
C'est vrai, sauf qu'habituellement, une formation, c'est fait en tout cas pour celles que je connais, c'est fait en petit comité. Là, c'est en général tous les développeurs ou l'essentiel des développeurs.
Ouais, mais ça reste efficace quand même.
Encore plus efficace, parce que ça sert aussi de team building pour des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble au quotidien.
Et puis, ça aide, ça permet aussi de brasser les... Bon, y a une petite émulsion, même si on essaye de faire en sorte que ça ne devienne pas une compétition entre les sociétés. Bon, à la fin, ils s'en parlent, t'as réussi ce challenge, moi non, etc. Et donc, c'est vraiment sympa, ça réunit bien les participants autour d'un événement.
Tant qu'il n'y a pas des back-office avec des gros tricheurs, ça va?
Non, on n'a pas eu trop ça. On veille au grain.
Une autre activité, donc, c'est le sondage Pulse, dont l'édition 2025 est sortie récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Oui, tout à fait. C'est la seconde itération de cette étude. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient posées. Comment vous faites ça? Et quelle est la taille de votre équipe par rapport à la taille de la boîte? Est-ce que vous êtes équipé de telle ou telle technologie? On avait beaucoup, beaucoup de questions et c'était difficile de retrouver l'information, de l'avoir à jour, d'essayer de compiler les réponses. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas juste un formulaire? Et puis, on se l'enverrait. Tous ceux qui veulent répondre, ils répondent, choisissant les questions sur lesquelles ils sont confortables pour répondre. Et après, on s'est dit, si on fait ça, autant carrément publier les résultats. Donc, on a commencé l'année dernière et on avait une grosse quarantaine de questions. Tu te rappelles, Nicolas, le nombre de participants sur la première itération?
Sur la première, il y en avait une 45 à peu près.
Ouais, voilà, 43 entreprises. Donc, on a publié ce rapport à l'extérieur. On a eu un très bon retour, Hervé. C'était le coup d'essai. Sur la seconde édition, on a augmenté non seulement la profondeur des questions, avec plus de 80 questions, et on a aussi augmenté le nombre de participants. Il y a 82 entreprises différentes, donc on accepte une réponse au formulaire par société, et on a eu 82 réponses. Donc, ça donne un bon échantillon représentatif de ce qu'il peut y avoir dans le monde de la French Tech. Et ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, c'est qu'il n'est pas uniquement technique et il collecte des informations et des retours sur tout un tas de paramètres d'une organisation de sécurité, comme par exemple la taille de l'équipe, la féminisation des équipes, l'organisation, quelles sont les responsabilités du CISO, du responsable sécurité, est-ce qu'il va être responsable de la continuité d'activité également, est-ce qu'il va être responsable de la conformité, est-ce qu'il va être des PO également, et tout un tas d'informations sur l'incidentalité, la composition des équipes. C'est un rapport qui fait 130 pages et qui est extrêmement profond et détaillé.
92 questions, on avait cette itération aussi, donc un peu plus du double.
Et comme c'est la seconde itération, la chose qui est intéressante, c'est qu'on a pu dégager des tendances par rapport à l'année dernière. Une chose dont on s'est aperçu, c'est qu'il pouvait y avoir, de temps en temps, sur certaines questions, des disparités assez importantes en fonction de la taille de l'entreprise. Parce qu'on peut avoir dans la tech des sociétés qui font plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, et des sociétés avec 5, 10, 15, 20 personnes. Et donc, dans ce sondage, quand c'était pertinent, on a fait aussi dégager des tendances par taille d'entreprise.
Par taille d'entreprise, c'est aussi intéressant, par taille du public concerné. Il y a des entreprises qui s'adressent uniquement à des professionnels, puis il y a d'autres boîtes de la tech qui s'adressent au grand public, et donc qui tout de suite sont en contact avec beaucoup plus de monde, et donc sont susceptibles d'avoir une incidentologie un peu plus fournie.
Tout à fait. C'est un point de mesure qui existe dans le rapport, mais il n'y a pas de cut B2B, B2C, sur certains slides, pour des raisons de lisibilité, on s'est astreint à ne faire des découpages que sur cette variable de la taille de l'entreprise. Parce que, aussi, dans la tech, la croissance, c'est tout. Donc, ça permet de se positionner. Généralement, un CISO qui arrive, sa boîte est très petite, et si tout se passe bien, assez rapidement, elle est très grande. Donc, ça l'aide aussi à décider à quel moment il conviendrait d'activer telle ou telle mesure, de commencer à réfléchir à une certification, à commencer à embaucher des gens.
Non, mais à quel moment je prends un SOC externe, à quel moment je mets un SOC interne, etc.
Et donc, sur la première itération, c'était surtout un outil qui a permis aux CISO membres de C4Scale d'aller discuter avec leur conseil d'administration ou leur board ou leur patron ou leur CEO pour pouvoir justement se comparer. Parce que si vous êtes une société de la tech, c'est quand même compliqué de prendre des données qui proviennent de rapports qui ont été faits avec des sociétés non tech. Les besoins de la Société Générale ou de la BNP et les moyens ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'entreprises du secteur tech.
Alors, quels ont été les points les plus marquants ?
Il y en a un sur lequel on nous a pas mal attendu, c'est celui de l'IA et des LLM, etc. Donc, forcément, on a posé des questions là-dessus. Et bon, alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que les boîtes de la tech ont été les plus exposées à la déferlante des LLM et des intelligences artificielles. C'est-à-dire que c'est devenu pour nous un passage obligé, quoi. C'est pas possible de dire ouais, nous on fait pas d'IA, on est dans la tech mais on fait pas d'IA. C'est signer son arrêt de mort que de dire ça. Donc on a été poussé par notre j'ai entendu des sociétés où il y a eu des moratoires, etc. Ouais, nous la tendance c'est qu'on a quand même été poussé par le board à en intégrer aussi bien dans l'entreprise que dans les produits qu'on développe. Et donc, on a été exposé très tôt et très vite, avec pas vraiment d'autre choix que d'accompagner. Ce qu'on a observé, c'est sur les points précis de la sécurité, ce que nous ont dit les CISO, c'est que leur inquiétude avec l'intelligence artificielle, c'est comment on accompagne justement, comment on fait en sorte d'accepter et d'intégrer ça dans son système d'information, voire dans son produit, en anticipant les risques émergents, d'une part. Et de l'autre, la grande question, c'était « Ah, mais maintenant, il y a les attaquants avec les IA et vous, vous défendez avec des IA parce qu'on vous a vendu des produits qui… » Ben, pour l'instant, on voit surtout des CISO qui se préoccupent de la supply chain. Et pour la partie défense, c'est plus des technologies qu'ils essayent, qu'ils testent, mais il n'y a pas vraiment de mise en production actuelle. Ce qu'ils nous ont dit, c'est ben, « Nous, les IA, on les utilise tous les jours ». Mais c'est pour faire écrire des politiques de sécurité, répondre à des questionnaires de sécurité, analyser les réponses aux questionnaires de sécurité, écrire des questionnaires de sécurité pour nos propres fournisseurs. Donc c'était en fait beaucoup d'administratifs.
C'est quand même comme tout le monde. Aujourd'hui, ça nous a quand même sauvé la vie. Enfin, je veux dire, quand tu vois les questionnaires qu'on t'envoie, heureusement qu'il y a des IA pour répondre à ta place.
Et des IA pour analyser les réponses.
C'est quasiment un cercle vicieux parce que les gens bien câblés vont utiliser des IA pour générer leurs questionnaires. Les gens bien câblés vont utiliser des IA pour répondre à ces questionnaires. Et on l'espère sur la base d'éléments concrets, mais en tout cas avec le moins d'intervention humaine possible. Et puis ceux qui n'utilisent pas d'IA, ils se perdent dans des questionnaires.
Mais pourquoi pas, hein. Peut-être que c'est au final la maximisation de la fonction de récompense, parce que en fait, il y en a qui ont essayé de faire des questionnaires de sécurité standards, personne ne les a jamais adoptés, comme le CAIQ, et du coup, tout le monde faisait son propre questionnaire.
Non, mais ça reste un domaine de recherche, mais bon, il y a des projets de normalisation quand même. Hein.
J'ai répondu au CAIQ pour mon entreprise, et personne ne l'a jamais consulté, donc il y a quand même 300 questions. Il n'y a qu'à voir le nombre de solutions qu'il y a sur le marché pour essayer de résoudre ce problème. Tout le monde aujourd'hui est complètement dépassé par cette histoire de supply chain et de questionnaire de sécurité. Moi, aujourd'hui, on a un portail. Nos clients, ils peuvent venir poser des questions en langage naturel et ils ont les réponses. Et ça donne des références aux documents qu'on a écrits et qu'on a mis dans le portail. Et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est vraiment une des choses aujourd'hui concernant l'IA qui change la vie du responsable sécurité.
Enfin, c'est pas spécifique aux membres de C4Scale, hein. C'est le cas de. Enfin, je veux dire, moi, je fais pareil, hein. Et je pense que tout le monde fait pareil. Donc, ça marche pour tout le monde. Et sinon, il y avait un autre truc dans le sondage Pulse qui a à retenir.
Il y a plein de choses à retenir, parce que comme l'a dit Quentin, il fait plus d'une centaine de pages. Moi, je parlerai d'une dynamique de recrutement qui m'intéresse particulièrement, qui met en avant un intérêt sur les profils AppSec. Je dirais pas que c'est une priorité parce que d'autres profils importants qui continuent à avoir le vent en poupe, si je puis dire. Mais en tout cas, l'AppSec a été remonté comme un type de rôle de profil sur lequel on avait un intérêt particulier pour l'année à venir. Je pense que ça s'inscrit dans une démarche où après avoir pendant des années dans ce type, je parle des entreprises qui sont représentées chez C4Scale, hein, mais on a beaucoup misé sur la conformité, sur le fait de se développer autour de fondamentaux qui permettent de vendre nos produits. L'AppSec fait aussi partie maintenant des sujets prioritaires qu'on veut mettre en avant. Maintenant qu'on a des entreprises qui sont un peu plus grosses en France, qui s'adressent à un marché sans doute encore plus international que ça n'était avant. On a des enjeux très forts de ce côté-là.
Et est-ce que vous avez été surpris par certains aspects, certains points ?
Il y a un autre sujet qui n'est pas une surprise pour moi, mais qui se confirme depuis l'année dernière. En fait, là, pour le coup, c'est une tendance qui se confirme. C'est qu'il y a une grosse pression autour de la gestion de la sécurité des fournisseurs. Alors là, ça n'a rien de spécifique aux entreprises de la tech, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans le baromètre de Cézin, pour ne citer que celui-là. Mais que ça soit côté incident, que ça soit process de revue et de validation des entreprises tierces, des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de SaaS ou autres, on voit qu'il y a un gros intérêt là-dessus et un gros enjeu. J'ai plus le pourcentage en tête, mais il y avait un gros volet là-dessus et un gros intérêt là-dessus.
J'ai fait des questionnaires de ce genre par le passé, plus de 100 questions, plus de 80 répondants, c'est comme un gros boulot, vous faites ça vous-même ou vous faites faire par l'IA ou par des stagiaires, ou c'est quoi là ?
Pour produire le questionnaire ou pour répondre au questionnaire ?
Pour surtout traiter les réponses et relancer les gens qui n'ont pas répondu et faire produire le document final, etc.
Tu peux faire appel à un prestataire.
Alors, pas quand on est une petite association avec un budget limité comme le nôtre, mais on fait ça sérieusement. On a le bureau de C4Scale est très dévoué. On a surtout une personne au sein du bureau de C4Scale qui veut pas qu'on la cite, mais qui participe plus qu'activement, qui est même à l'initiative de ce livrable et de ce projet, et qui a la manœuvre encore sur le deuxième et qui a fait un boulot considérable.
Et une différence qu'on a justement sur cette seconde itération, c'est que maintenant qu'on a des sponsors, on a pu engager un graphiste pour rendre ce document beaucoup plus agréable à lire. Effectivement, comme il fait plus de 100 pages, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose de bien aéré, bien présenté. Le premier, c'était moi qui avais rajouté les images dessus, c'était une horreur. Là, cette fois-ci, grâce au sponsor, on a vraiment un truc qui est très sympa à regarder.
En parlant de graphisme, c'est quoi ce logo avec un renard dessus ? Est-ce qu'il y a une backstory ?
Il y a une backstory, je suis pas sûr qu'elle soit passionnante. Il y a un des membres fondateurs qui était CISO d'une société et leur graphiste leur avait fait un logo pour l'équipe sécurité. Et il avait réutilisé ce logo-là, et donc on est reparti du renard pour voilà, on avait utilisé ce logo au tout début, on a regardé le renard, mais on a fait un zoom sur la tête, parce qu'avant, il était en entier, mais du coup, dès que c'était en petit, en logo, on voyait rien. Et voilà, c'est juste ça.
Nicolas est déçu, il pensait que ça avait un rapport avec les furries.
Ah non, désolé, ben, on peut re-enregistrer, j'invente une histoire, mais non.
Du coup, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre votre association? Parce que j'étais sur le site web et j'avoue, c'est assez cryptique. Est-ce qu'il faut être capable de répéter Cup Cattle correctement 3 fois de suite ou c'est quoi là?
Alors ouais, le site web, c'est un peu un work in progress depuis le début parce que bon, au début, on était vraiment tout se passait au sein de la communauté. On n'avait pas forcément des velléités ou d'interagir avec l'extérieur, si ce n'est de capter les membres qui avaient dû de faire partie de l'assaut. Et là, depuis cette année en particulier, on essaye de remplir cette mission qui fait partie aussi de notre cahier des charges, d'essayer d'influencer l'écosystème. Donc le site web va être refait, c'est la prochaine étape sur laquelle on doit travailler avec le graphiste. L'idée pour rejoindre le bureau, c'est relativement simple, hein. Il y a pour rejoindre l'association. C'est très simple, il suffit de rentrer dans les critères d'admissibilité, à savoir être un professionnel de la sécurité qui travaille au sein de l'équipe sécurité d'une boîte de la French Tech.
Je rajouterais dépourvu de conflit d'intérêts.
Oui, c'est-à-dire pas une boîte de la French Tech qui serait elle-même une boîte qui aurait intérêt à vendre ce qu'elle fait aux autres.
Si, parce qu'en fait, on a tous intérêt à vendre ce qu'on fait aux autres en tant que société, mais le rôle des personnes qui rejoignent l'association, il est ni commercial ni recruteur, en tout cas au premier chef. Et ça, c'est un point d'orgue qu'on veille à conserver. C'est que pour les personnes, notamment d'entreprises, par exemple, qui vendent des produits de sécurité, qui éditent des produits de sécurité, on veille à notifier, à les informer quand ils rentrent dans l'association, que évidemment il s'agit pas d'une démarche commerciale, qu'il n'y a aucune démarche commerciale possible directement au sein de l'association, que ça soit dans nos soirées ou sur nos channels Slack. Et voilà, ça c'est un point très important. Et quand quelqu'un quitte sa société qui répondait aux critères au départ suscités par Quentin, notamment pour rejoindre une entreprise de service, ça arrive de temps en temps, ben on est amené parce que chacun comprend très bien, on est amené à demander aux gens de quitter l'association à cette occasion.
Par contre, c'est complètement gratuit et il n'y a pas de paperasse. Il suffit de demander et si on rentre dans les critères d'admissibilité, on rentre, c'est immédiat et sans formalité.
Ok, est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que certains de nos auditeurs peuvent vous aider?
Oui, qu'est-ce que vous recherchez? Plutôt des membres, plutôt des sponsors, plutôt de la presse qui relaye votre sondage. Enfin, de quoi avez-vous besoin?
Ce qui nous intéresse le plus, c'est s'assurer que tous les gens qui pourraient être des membres potentiels sont au courant de l'existence de l'association et qu'ils viennent nous rejoindre. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est immédiat et sans aucune formalité, donc ils peuvent venir, partir, regarder si ça leur plaît pas, ils peuvent repartir comme ils sont venus. Il y a vraiment aucun engagement, mais on a des très très bons retours. Les gens qui tombent sur l'assaut, quand j'étais CISO tout seul, j'avais l'habitude de dire c'est Catscale, ça me fournit l'équivalent d'un équivalent temps plein, quoi. C'est comme si j'avais déjà un membre de mon équipe sans rien payer. Quand j'avais une question, je voulais tester un outil, avant de faire quoi que ce soit, avant de regarder sur ChatGPT, j'allais poser la question sur C4Scale. Généralement, dans la demi-heure, j'avais une demi-douzaine de réponses pertinentes. Donc ça, c'est faut en particulier pour les CISO qui démarrent, qui sont un peu isolés, je leur recommande vraiment de rejoindre l'assaut. Les sponsors, on en a déjà, et à vrai dire, on ne veut pas trop en avoir, parce que comme le disait Nicolas précédemment, on ne veut pas vendre l'association aux sponsors, c'est juste pour faire tourner l'assaut, et on prend grand soin à ne pas laisser rentrer des actions trop invasives envers les membres. Par exemple, ils peuvent venir sur Slack, mais ils ont un canal dédié et les membres viennent sur le canal du sponsor. Bah, donc, ils ont ce choix-là de pas, s'ils veulent pas interagir avec le sponsor, voilà, les sponsors sont pas invités au meet-up. Donc, on a pris soin de limiter le sponsoring. Et aujourd'hui, on a des gens qui font un peu la queue pour rentrer et on veut pas en avoir plus. Par contre, effectivement, Comme le disait Nicolas tout à l'heure, il y a énormément d'efforts d'énergie qui a été nécessaire pour produire le Pulse Survey. Et du coup, ça nous tiendrait à cœur qu'il trouve son public. Ça peut être intéressant pour des gens qui sont soit dans la sécurité, soit dans la tech, mais pas forcément les deux en même temps. Et on pense que c'est vraiment une bonne lecture pour beaucoup de profils différents, comme des investisseurs, comme des consultants, comme des juristes. Tout le monde ne va pas forcément tout lire, mais il y a des sections, il y a des chapitres, et il y en a vraiment pour tout le monde, et on aimerait vraiment que cette étude trouve son public.
Ok, est-ce que vous souhaiteriez ajouter le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est quoi les goodies ?
Les goodies, ce sera après le site web, mais on a commencé à faire des stickers.
On a deux niveaux de stickers. Les stickers pour le grand public, et puis on a les stickers étoilés pour ceux qui participent activement, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour la vie de l'association.
Alors on a essayé de gamifier les goodies.
Je ne sais pas si vous étiez sur les espaces associations dans les différentes manifestations, parce que je n'ai pas pu les visiter moi-même. Mais est-ce que vous prévoyez de profiter des espaces associations dans une ou plusieurs conférences à l'avenir où les gens pourront venir vous rencontrer ?
On aimerait bien, on a commencé à faire des interventions avec des casquettes Secret Scale. On est intervenu dans un événement à IDC, où, par exemple, on a fait l'OCIR il n'y a pas très longtemps. Et là, on est en discussion pour intervenir dans une table ronde aux Assises. Peut-être qu'on fera d'autres plus tard. Je sais qu'il y a un espace associatif au FIC, mais en fait, j'ai l'impression que...
C'est plus dans les manifestations de la French Tech qu'il faut aller.
Voilà, exactement. Je me vois plus aller à Vivatech, on a raté le coche cette année.
Vivatech, c'est pas évident, c'est très cher.
Ouais, mais là, on se ferait inviter comme asso, quoi. Donc, plutôt Vivatech, plutôt French Tech, parce que Vivatech, c'est surtout des... Bon, j'ai pas l'impression qu'il y aurait des gens, des équipes sécurité ou juste des CTO qui commencent à se poser la question de est-ce que je dois embaucher un CISO, comment je fais. On essaye d'avoir des ponts avec la BPI, avec Station F, avec tout l'écosystème de la tech aussi, parce que c'est peut-être celui où on a un vivier plus important. Il y a plus de monde dans la tech qui doit faire de la sécurité que de monde de la sécurité qui sont spécialisés dans la tech. Et ceux qui sont là, ils sont déjà parmi nous, on les connaît déjà, ils sont identifiés. Donc c'est plutôt les petites boîtes de la tech qui ne nous connaissent pas, et en particulier ceux qui sont plus loin de Paris, parce qu'ils ont moins de chances d'avoir entendu parler de nous par le bouche à oreille, parce qu'ils sont peut-être plus isolés.
Très bien. Eh bien, une dernière chose peut-être...
Rejoignez-nous si vous faites de la sécurité dans une boîte de la tech. Envoyez un email à contact@secatscale.org et on sera ravis de vous accueillir.
Eh bien, merci Quentin, merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.